Bonjour à tous. Géopolitique depuis l'école des hautes études en sciences sociales à Paris sur le thème de la recherche d'un ordre international durable et d'ordres régionaux viables. Sujet du séminaire international organisé par la chaire de géopolitique appliquée du Collège d'études mondiales. Un regard sur le système international tel qu'il existe aujourd'hui fait apparaître un monde dans lequel se multiplient les conflits régionaux. L'International Crisis Group en identifie 75 en 2017, une situation qui révèle les limites des interventions diplomatiques ou militaires des puissances et des organisations internationales, limite aussi des nouvelles puissances régionales qui ne parviennent pas davantage à créer de la stabilité, tant les conflits sont enchevêtrés et les guerres civiles internationalisées, comme on le voit particulièrement en Afrique et en Orient. Regard sur les échelles de l'ordre et de la paix en Afrique et en Amérique latine, état des lieux et questionnement sur les intégrations régionales sur ces deux continents et leur contribution à la mondialisation. Pour en discuter, Cheikh Tidiane Gadio, qui est président de l'Institut panafricain de stratégie, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Bonjour.
Bonjour.
Et Ernesto Ottone, ancien conseiller du président chilien Ricardo Lagos, directeur de la chaire Globalisation et démocratie de l'Université Diego Portales de Santiago du Chili et de la chaire Destins mondiaux de l'Amérique latine du Collège d'études mondiales à Paris. Bonjour.
Bonjour, ma défense.
Il est intéressant de noter combien l'élection de Donald Trump jette des incertitudes dans le monde entier. Sans doute, l'Amérique latine est-elle le continent le plus impacté par ce qui se passe chez le voisin du Nord. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump semble avoir levé des interdits. Le président américain a annoncé une militarisation de sa relation avec le Mexique, avec la construction d'un mur, le déploiement de forces de sécurité et l'adoption de sanctions économiques. On va développer tout ça. Dans une première question, peut-être, comment, côté africain et côté latino-américain, sont vécues aujourd'hui les incertitudes liées à l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche? Qui veut commencer? Cheikh Tidiane Gadio.
Merci. En vérité, M. Trump parle très peu de l'Afrique. On l'en remercie pour l'instant. En attendant qu'il s'intéresse davantage à notre continent, mais comme nous faisons partie du monde, nous sommes obligés de constater qu'il se passe avec M. Trump une sorte de déstabilisation permanente, n'est-ce pas, du débat mondial, parce que nous sommes tirés dans tous les sens. Un président qui fait des tweets tous les jours, il est difficile de suivre son rythme parce que il s'organise pour avoir un buzz assez régulier. Et le monde, pourtant, vit des situations très graves avec ce qui se passe au Moyen-Orient, la lutte contre le terrorisme à l'échelle planétaire, le combat contre la pauvreté, la question du changement climatique, que lui récuse d'ailleurs. Et un des, peut-être, points sur lequel il a frappé, entre guillemets, directement l'Afrique, c'est avec le retrait annoncé des États-Unis du traité de Paris. C'est un impact
sur
immédiat.
Le climat.
Voilà, c'est un impact immédiat parce que l'Amérique s'était engagée avec Obama pour 3 milliards de dollars pour le fonds vert. Je crois qu'Obama a eu juste le temps de décaisser 1 milliard ou en tout cas de s'engager pour 1 milliard. La conséquence, c'est que nous perdons, nous, tout de suite, beaucoup d'argent. Et le débat sur M. Trump va occuper le monde encore, et j'espère que le monde aura le réflexe de marcher sur ses deux jambes, comme disent nos amis chinois, parler, gérer les problèmes que soulève Trump, mais aussi développer une stratégie mondiale qui ne soit pas uniquement axée et organisée autour de M. Trump.
En tout cas, ce que je comprends de ce que vous venez de dire, Cheikh Tidiane Gadio, c'est que finalement, avant même qu'il n'ait parlé de l'Afrique, Donald Trump a pris des mesures qui ont des conséquences directes sur le continent africain. Ernesto Ottone, côté latino-américain, j'en ai dit quelques mots en introduction.
Bon, côté latino-américain, on a la même préoccupation de tout le monde sur l'incertitude qui donne un président avec ses caractéristiques. On était préoccupé avant, quand il est élu. Nous sommes plus préoccupés maintenant qu'il est déjà en train de gouverner. Mais c'est pour l'Amérique latine, il faut dire quelque chose. Heureusement, pendant les dernières années, l'Amérique latine a eu une période de croissance très importante entre 2003 et 2013. Dans cette période de croissance, l'économie est beaucoup plus solide, l'économie latino-américaine. Et aussi, il y a des meilleurs indicateurs sociaux. Pratiquement, les indicateurs sociaux sont meilleurs dans toute la région, sauf Venezuela, qui est une catastrophe du point de vue de la démocratie et du point de vue du développement. Mais il y a une situation plus solide. Et je voudrais dire qu'aussi, il y a un facteur qui est très important. On est passé dans une période de dépendance des États-Unis d'Amérique en période de diversification de l'Amérique latine avec ses rapports internationaux et d'interdépendance. Et ça, c'est un changement très important parce que c'est un changement sur une hégémonie qui existait pendant plusieurs années. Maintenant, on est pour ça dans des conditions qui sont meilleures pour faire face à ce gouvernement des États-Unis avec M. Trump. Maintenant, il faut séparer la situation parce que les pays qui est plus affectés, c'est le Mexique et l'Amérique centrale. Le Mexique et l'Amérique centrale, il y a un danger énorme que ça joue sur la stabilité de ces pays, sur leur système politique et sur leur économie.
Il est bien question là, Ernesto Ottoné, de la question de la fermeture de la frontière.
De la fermeture de la frontière, de la politique vers les migrants, de tous les aspects très agressifs qui sont aujourd'hui posés par M. Trump. Mais pour l'Amérique du Sud déjà a un rapport beaucoup moins important avec les États-Unis. Un pays comme le mien, comme le Chili, il y a seulement 25% de son commerce avec les États-Unis. Le reste, c'est avec l'Asie, l'Europe et l'Amérique latine.
Alors justement...
Et on n'a pas de dette. On n'a pas une dette importante avec les États-Unis. Alors, on a une situation beaucoup plus forte pour faire face à une politique qui peut être agressive, surtout sur ces secteurs du Mexique et de l'Amérique centrale.
Donc une vraie différence selon le positionnement que l'on a et selon l'endroit où l'on se trouve en Amérique latine, selon qu'il s'agit de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud. Ernesto, tenez, je reste avec vous quelques instants sur l'impact des mesures prises par Washington. Vous parlez du Chili, pays de la côte Pacifique. Le désengagement ou l'abandon du TPP par les États-Unis, quelles conséquences peut-on imaginer pour les pays latino-américains. Est-ce que cette décision, finalement, puisqu'on parle d'intégration, est une chance pour l'intégration régionale latino-américaine? Est-ce que c'est l'occasion, alors à défaut d'un réveil, puisque vous parliez de l'abandon de la dépendance de l'Amérique latine vis-à-vis des États-Unis vers une plus grande diversification, en tout cas, est-ce que ça va faire bouger le curseur d'une manière ou d'une autre, Ernesto Ottoné?
Nous devons être très clairs, les latino-américains, sur ça. Et nous sommes pour un régionalisme ouvert. Nous ne sommes pas favorables à revenir en arrière dans l'ouverture sur le monde. Et pour ça, on va continuer avec le TPP. Il y a la Chine est en train de jouer un rôle aussi dans cette ouverture de l'Amérique du Sud. Et je crois qu'il y a une possibilité extraordinaire, que c'est la possibilité que la côte atlantique et la côte du Pacifique puissent comprendre que l'ouverture de l'Amérique latine pour être une ouverture qui porte sur un succès à long terme, ça doit être une ouverture faite par les deux côtes. Alors, c'est bien qu'elle soit renforcée la partie du Pacifique. Mais c'est une opportunité pour renforcer aussi la partie de l'Atlantique et trouver un rapport beaucoup plus important entre les pays de l'Atlantique et du Pacifique pour travailler pour une intégration régionale beaucoup plus puissante de ce qui existe aujourd'hui.
Sur cette question du renforcement de la relation transatlantique, évidemment, Cheikh Tidiane Gadio, l'Afrique est concernée.
L'Afrique est concernée, mais je dois dire que, avant de renforcer peut-être les autres aires partagées, l'Afrique devrait se pencher sur son propre sort. Je pense qu'au total, nous n'avons pas réussi notre projet d'unité africaine, d'intégration africaine. L'Afrique souffre à travers ses populations, je dois dire, atrocement, parce que la pauvreté ne fait que s'approfondir, au fond. Les populations sont privées à peu près de tout. Ce qu'on appelle les fondamentaux du développement, l'agriculture, l'éducation, la santé, les infrastructures. Et aujourd'hui, les nouveaux enjeux du développement, la transition numérique, énergétique, écologique, de tous ces débats, l'Afrique est exclue, ou l'Afrique s'est auto-exclue, parce qu'il faut aussi arrêter de faire porter la responsabilité de nos problèmes à l'extérieur. Nous pensons, au niveau de notre institut, le panafricain de stratégie, l'Afrique a globalement manqué de stratégie pour son développement, ou l'Afrique a refusé les bonnes stratégies de développement que certains de ses leaders, comme Kwame Nkrumah du Ghana, le premier président d'un État indépendant en Afrique noire en 1957, il a tout de suite prôné les États-Unis d'Afrique. Alors, certains dirigeants africains se sont arrangés pour s'opposer à Nkrumah et proposer la démarche de l'intégration régionale comme étant la solution au problème de l'Afrique. 50 et quelques années d'intégration régionale, le résultat est là. La CEDEAO, qui est une des plus grandes communautés régionales d'Afrique, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, a un taux d'échange commercial intracommunautaire de 10 à 15%. Sur les 150 milliards de dollars d'échange avec le reste du monde, les pays membres de la CEDEAO ne dépensent que 10 milliards en leur sein. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que l'Afrique a fait des choix très problématiques, très discutables. J'espère que l'émission nous permettra d'aller en profondeur sur ces questions. Et maintenant, me permettre, moi, de revenir sur ce que nous disons depuis plusieurs années, que quand on se trompe, comme on dit en Afrique, quand on ne sait pas où on va, il faut revenir de là où on était parti. On était parti sur le fait que l'Afrique balkanisée en plusieurs États, des États nains, des États non viables, que cette Afrique n'avait pas d'avenir. Donc il faut revenir à ce débat fondamental, essayer de proposer de nouvelles pistes pour le développement de l'Afrique.
Alors, je pense qu'il est précisément intéressant de vous faire échanger l'un l'autre sur cette question d'intégration régionale. Vous donniez le chiffre, Cheikh Tidiane Gadio, de 10% dans les échanges entre pays dans le contexte des intégrations africaines. C'est vrai que c'est assez intéressant de se poser sur ces chiffres. En ce qui concerne, par exemple, les Européens, il atteint 70%, c'est énorme. En Asie, 50%. 10-11% en Afrique, pour 20% en Amérique latine. Je parle sous votre contrôle à l'un et à l'autre, bien évidemment. Qu'est-ce qui explique que, vous parlez d'échec de l'unité africaine, qu'est-ce qui explique finalement cet échec et précisément pourquoi l'Amérique latine a réussi là où l'Afrique n'a sans doute pas réussi? Comment est-ce que vous pourriez chacun apporter des éléments d'éclairage pour mieux comprendre l'une et l'autre des deux situations, Ernesto Ottoni?
Oui, je crois que je ne veux pas donner une vision idyllique de l'Amérique latine. L'Amérique latine a beaucoup de problèmes. Il y a des grands pays, des énormes pays comme le Brésil, qu'il y a son système politique, sa démocratie, atteint par la corruption, par des problèmes graves. Il y a les pays comme Mexique qui a une violence criminelle énorme qui affecte le fonctionnement du système politique. Et on n'a pas de guerre à l'intérieur de l'Amérique latine. Avec les négociations de Colombie, pratiquement, on est une région en paix il n'y a pas aussi des religions guerrières en Amérique latine. On a un certain syncrétisme culturel que c'est très important. Mais il y a des problèmes avec des inégalités, si bien la pauvreté, les couches moyennes ont eu un saut de 60 millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté dans les dernières 10 ans. De la pauvreté, c'est les 10% de la population d'Amérique latine. Aujourd'hui, dans une situation de l'économie mondiale beaucoup plus difficile, on doit voir si on va continuer à avancer ou ces secteurs qui sont sortis de la pauvreté, sont arrivés à être des couches moyennes, mais sont précaires, ils peuvent revenir en arrière. Et ça créerait des problèmes politiques, sociaux énormes dans la région. Mais, du point de vue de l'intégration, je crois que l'Amérique latine, elle n'a pas avancé ce qu'elle devait avancer. Et je comprends l'esprit de Sheikh quand il... je me souviens, quand j'étais jeune, j'allais en Afrique, l'esprit du panafricanisme, c'était admirable pour nous, les latino-américains. Et en Amérique latine, on a une rhétorique sur l'intégration, mais jusqu'à maintenant, il n'a pas les niveaux d'intégration qu'on pourrait avoir.
Pourtant, les schémas se sont multipliés des années en Estonie. Est-ce que c'est révélateur de quelque chose, précisément?
C'est révélateur d'un certain désordre, parce qu'il y a l'accord du Mercosur, l'accord du Pacifique, et après, il y a eu des accords l'ALBA, qui c'était un accord idéologique, disons.
Initié par Hugo Chavez au Venezuela.
Aujourd'hui ça n'existe pas beaucoup. Mais ce qu'on a besoin, c'est d'une unité au-delà des réalités idéologiques qui peuvent être très différentes, des différences entre les pays, pour avoir une présence dans l'insertion, dans la mondialisation, qui soit viable pour l'Amérique latine. Si, par exemple, dans les G20, il est là-bas dans les G20, l'Argentine, le Brésil et le Mexique. Il n'arrive pas avec une position. Il arrive avec 3 positions dans les G20. C'est ridicule. Et alors, il faut trouver des accords pour avoir une existence dans un monde difficile. Dans un monde où la présence des pays qui sont émergents, il doit compter. Et pour ça, on a besoin d'un niveau d'intégration régionale et d'unité qu'on n'a pas jusqu'à maintenant.
Cheikh Tidiane Gadio, comment vous réagissez à ce que vient de dire Ernesto Ottoni? Finalement, il y a un effet miroir qui se joue entre l'Amérique latine et l'Afrique. Ou contre-miroir?
En vérité, je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit qu'il ne faut pas une description idyllique de la situation de l'Amérique latine. J'ai noté dans les différentes théories du développement, les analyses internationales, qu'on présente tous les continents comme étant dans une meilleure situation que le continent africain. Sur l'Amérique latine, il y a énormément de problèmes. Je pense que le Brésil, qui était le pays locomotive qui tirait l'Amérique latine, a énormément de problèmes aujourd'hui par rapport à son développement, par rapport à sa gouvernance. L'Argentine a frôlé la catastrophe financière. La situation de ce qu'on appelle, nous, les afro-descendants en Amérique latine est une situation extrêmement préoccupante. Ils sont dans les couches de pauvreté généralisées. Au Brésil, on vient de voter une loi pour leur réserver un quota de 20% dans les emplois, alors qu'ils font la majorité de la population. Ils sont la majorité au Brésil, ils sont en Colombie, ils sont nombreux un peu partout. Leur situation ressemble un peu à la situation de pauvreté que vivent les Africains en Afrique. Et 20% de niveau d'intégration, c'est faible. Ce n'est pas à saluer comme une réussite, je pense que c'est faible. Et l'Asie, si je me souviens, les pays de l'ASEAN en particulier, il y a une dizaine d'années, ils étaient déjà à 56% d'échanges interrégionaux et il me semble qu'ils sont au-delà de 60%. Parlant du continent africain.
On en parlera dans la deuxième partie de l'émission, si vous êtes d'accord, Cheikh Tidiane Gadio. Nous retrouvons nos invités, Cheikh Tidiane Gadio et Ernesto Ottone, dans quelques instants. À tout de suite. Géopolitique depuis l'École des hautes études en sciences sociales à Paris sur le thème de la recherche d'un ordre international durable et d'ordres régionaux viables, sujet du séminaire international organisé par la chaire de géopolitique appliquée du Collège d'études mondiales. Nous retrouvons nos invités, Cheikh Tidiane Gadio, qui est président de l'Institut panafricain de stratégie, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, et Ernesto Ottone, ancien conseiller du président chilien Ricardo Lagos, directeur de la chaire Globalisation et démocratie de l'Université Diego Portales de Santiago du Chili. Cheikh Tidiane Gadio, nous avons terminé la première partie de l'émission sur votre commentaire sur l'intégration en Amérique latine et cette, finalement ce qu'évoquait Ernesto Ottone qui parlait d'un besoin d'une plus grande unité en Amérique latine. Votre commentaire sur l'Afrique, vous évoquiez là aussi une absence de réussite des intégrations régionales et là, le besoin d'une unité africaine plus forte, renforcée. Finalement, il y a un jeu de miroir et de contre-miroir qui se joue entre l'Amérique latine et l'Afrique.
Tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord avec lui qu'il y a eu un moment en Afrique où il y avait un engouement pour le panafricanisme comme étant effectivement la solution au problème de l'Afrique. Alors certains ont dit que ce n'est pas la solution, c'est une des solutions. Et ils ont préconisé la soi-disant intégration économique africaine comme étant la voie pour régler les problèmes de l'Afrique. Alors ce qui est problématique dans cette démarche, c'est que tout le monde sait que même l'économie est dirigée et drivée, comme on dit, par la politique. Quand des États refusent l'unité politique et veulent prétendument s'unir sur des bases économiques. Tout le monde sait que l'économie, c'est le domaine de la compétition. C'est le domaine des rivalités. Ce n'est pas le domaine de l'idéal politique où on va ensemble pour un objectif précis, comme disait l'autre. Pour aller vite, il faut aller seul. Pour aller loin, il faut aller ensemble. L'Afrique a été balkanisée. Malheureusement, vers 1956, un certain Gaston Defer, que nous respectons beaucoup, paix à son âme, a décidé que les États de l'Afrique de l'Ouest, qui étaient une fédération, et qui fonctionnait sous le même ministère des colonies, et qui avait un seul gouverneur général, et qui commençait vraiment à se développer, etc. Il a décidé que ces pays devraient aller à l'indépendance comme des territoires séparés, et donc s'organiser comme des États différents. Et Senghor, le président Senghor, a tout de suite dénoncé ce qu'il avait appelé la balkanisation de l'Afrique. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, non seulement on n'a pas arrêté la balkanisation de l'Afrique, mais on est entré dans une phase active d'hyper-balkanisation de l'Afrique. On a scindé le Soudan en deux États. Certains veulent que l'Azawad, le nord du Mali, se sépare du reste du Mali. D'autres veulent que la Centrafrique soit scindée en deux pays pour avoir enfin la paix, soi-disant. Donc si vous prenez cette tendance, les gens sont prêts à faire des 50 et quelques États africains, 80, 100 États. Ce n'est pas viable. L'Afrique est globalement une entité qui, dans le passé, a vécu avec de grands empires, de grands ensembles. Vous prenez une entité comme le Sénégal. Nous avons toujours été avec la Gambie, avec les deux Guinées, avec la Mauritanie, avec le Mali. Historiquement parlant, aujourd'hui, nous avons 5 à 6 États dans cet espace. Certains parlent arabe, d'autres français, d'autres portugais, d'autres anglais. Et nous sommes dans une situation où nos marchés ne sont pas intégrés. Et chacun d'entre nous devient un obstacle pour l'autre, pour le progrès et le développement de l'autre. Alors nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut qu'on dise la vérité aux peuples africains, que les dirigeants africains acceptent qu'on a un problème essentiel de leadership et de vision. La vision était là, ils l'ont refusée, ils ont prétendu qu'on pouvait aller chacun seul et s'en sortir. Le résultat, c'est qu'après plus de 50 et quelques années d'indépendance et de pratique du développement, nous ne sommes pas plus avancés qu'à l'époque, nous avons même reculé. La Corée du Sud était à 3,8 milliards de dollars de PIB en 1960, était proche du Ghana, de la Côte d'Ivoire et autres. Aujourd'hui, la Corée du Sud représente 25 pays d'Afrique en termes de PIB qui se sont coalisés dans le marché commun de l'Afrique du Nord, de l'Est et du Sud, la seule Corée du Sud. Ils ont multiplié leur PIB plus de 300 fois. Aucun de ces pays africains n'a quitté un PIB de 2 milliards, 3 milliards pour atteindre les 20, 30, 50. Je parle des pays que j'avais cités, le Ghana et autres. Même le Nigeria, même aujourd'hui sur RFI, tout de suite, on disait qu'en Afrique du Sud, 2 enfants sur 3 vivent au-dessous du seuil de pauvreté. L'Afrique du Sud est supposée être un pays locomotive du continent. Donc l'échec est patent, l'échec est global, et je ne comprends pas pourquoi nos dirigeants pensent qu'en répétant la même formule erronée sur plusieurs années, que cette formule va finalement devenir une formule juste et régler les problèmes de l'Afrique.
Alors, j'ai deux questions, Shakti Diane Gadio, pour aller plus loin dans ce que vous venez d'évoquer. Quel est finalement aujourd'hui le degré de tension en Afrique entre ce qu'on peut appeler les souverainistes et les fédéralistes? Et pensez-vous que les puissances occidentales, elles-mêmes en compétition en Afrique, ont intérêt à accompagner cette unité africaine à laquelle vous appelez?
Alors, les plus réalistes comprennent qu'une Afrique dans son état actuel devient un problème, non seulement d'abord et avant tout pour les Africains, mais ensuite pour le reste du monde. Regardez un peu comment on a sous-estimé les enjeux de sécurité dans la construction des États africains, au point que le terrorisme mondial a compris que l'Afrique est le ventre mou du système international, et ils sont en train de déplacer leurs opérations en Afrique, précisément dans le Sahel, avec les erreurs qui ont été commises avec la situation, la guerre en Libye, et la conséquence immédiate qui est la dispersion des forces terroristes un peu partout dans le Sahel et dans le Sahara. Aujourd'hui, plus de 20 pays d'Afrique sont affectés par la crise du terrorisme. À côté de ça, ce qu'on appelle l'économie criminelle, trafic humain, trafic de drogue, trafic d'armes, cette économie criminelle est en train de s'étendre un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et ensuite, ce que certains appellent la migration et que nous appelons l'exode des jeunes Africains. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à aller mourir dans le désert, se noyer dans la Méditerranée, mais ils n'en peuvent plus et ils ne peuvent plus rester en Afrique. Donc l'Afrique, ceux qui encouragent la division et encouragent la balkanisation de l'Afrique ne savent pas que dans le long terme, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied, parce qu'ils sont en train de créer une situation où l'Afrique, avec 1 milliard d'habitants, le continent le plus riche du monde potentiellement, qui a tout, de l'or, du diamant, du pétrole, du gaz. Chaque pays, chaque jour, on découvre un pays africain pétrolier ou gazier. On ne peut pas avoir toutes ces ressources. Avoir plus de 60% de notre population qui est jeune. C'est-à-dire que la jeunesse du monde est en Afrique. Et la jeunesse est une ressource humaine. Et la ressource humaine est plus importante que la ressource naturelle. Donc, vous mettez tout ça ensemble, personne ne peut comprendre pourquoi l'Afrique stagne, pourquoi l'Afrique recule, pourquoi l'Afrique n'arrive pas à relever certains défis. Pour nous, la cause principale, c'est 1, leadership, 2, leadership, 3, leadership.
Et alors justement, quel rôle pour les puissances
Certains nous disent, attention, faites attention à la Chine. Elle vient en Afrique en force, etc., etc. Bon, on a aussi nos amis qui étaient en Afrique avant, qui sont restés. Certains comprennent, oui, si j'ai dit nos amis, vous pouvez traduire le mot ami par français, c'est tout à fait acceptable, mais l'idée c'est que si nos amis ne comprennent pas qu'une Afrique unie, une Afrique intégrée, non seulement ça permet de régler les problèmes de l'Afrique, mais ça permet aussi de rééquilibrer un peu la situation mondiale, parce que tout le monde dit, et c'est un président français qui disait que l'Afrique est l'avenir stratégique du monde, mais je ne sais pas s'il avait à l'esprit que l'Afrique devait aussi être l'avenir stratégique des Africains. Parce que si le monde pense l'Afrique comme une sorte de réservoir de ressources, qu'il faut aller en Afrique, c'est, comme on dit, c'est la prochaine frontière de la croissance, du développement, etc. On peut investir dans les infrastructures, les ponts, les routes, les chemins de fer. On peut faire beaucoup de choses en Afrique, mais il faudra le faire avec des Africains, structurés, organisés, si possible dans de grandes entités, comme les communautés régionales qui se transforment en fédérations politiques. J'apprécie beaucoup la démarche du Maroc qui va au-delà des contextes régionaux.
Qui a réintégré l'Union africaine récemment.
Et a demandé à intégrer la CEDEAO. On peut créer des espaces comme le nord-ouest africain, comme le nord-est de l'Afrique, etc. Et je pense que c'est ça la démarche sur nos grands territoires, avec nos immenses ressources et avec maintenant un leadership renouvelé. Parler de gouvernance, c'est simplifié. Tous les pays du monde ont leurs problèmes de gouvernance. La France est en train d'essayer de... On crée même ici un ministère, pas un ministère, mais un projet de loi pour la moralisation de la... N'est-ce pas ?
De la vie politique et de la vie publique.
Oui. Exactement. Et donc, en Afrique aussi, on a les mêmes défis. Mais le vrai problème, c'est le leadership visionnaire qui qui comprend que l'Afrique peut avoir sa chance, l'Afrique peut être membre de ce qu'on appelle les World Global Players. L'Afrique ne peut pas s'asseoir, le Sénégal, la Gambie, le Malawi, s'asseoir avec la France pour discuter comme partenaires égaux et qui se respectent. Ce n'est pas possible quand une université française peut avoir un budget qui dépasse le budget d'un pays africain, quand un rafale de l'armée française peut correspondre au budget d'une armée africaine. Honnêtement, je pense qu'il faut revoir le paradigme du développement de l'Afrique, tout remettre en cause et remettre les cartes sur table et changer de démarche.
Ernesto, tenez, moi je me tourne vers vous pour vous comprendre un petit peu ce qui se passe en Amérique latine. Vous évoquiez précédemment la nécessité d'une unité en Amérique latine. Il a été à une époque question d'un panaméricanisme, mais ça, l'Amérique latine ne le voyait pas forcément d'un bon œil, parce que l'idée venait des sphères du nord du continent, et ça génère un vrai questionnement. Déjà, quel état des lieux vous pouvez faire aujourd'hui de l'unité latino-américaine? Et est-ce que, puisque vous évoquiez un certain échec, pas vraiment, mais en tout cas, voilà, les processus d'intégration ne donnent peut-être pas les résultats attendus, est-ce qu'on peut imaginer quelque chose prendre corps, comme ce qu'évoque Cheikh Tidiane Gadio sur l'Afrique?
Je crois qu'il faut faire aussi les différences historiques. L'Amérique latine a eu une indépendance très précoce. L'Amérique latine est indépendante de 1820-1830. Pratiquement toute l'Amérique latine a constitué leur État national. Et sont des États laïques, sont des États avec une institutionnalité. Il y a certains pays qui ont plus d'institutionnalité, autres qui ont moins d'institutionnalité, mais on a un revenu moyen. Un pays comme le Chili, par exemple, est à 25 000 $ per capita aujourd'hui. Il y a 20 ans, 25 ans, il y avait 4 500. Et aussi, il y a aussi une situation beaucoup mieux. C'est bien, je suis d'accord avec chaque. Ça existe les problèmes des afrodescendants, mais l'Amérique latine, c'est un pays très métissé. Et la première, et ça les gens ne savent pas, que la première minorité, c'est la minorité afrodescendante, qui est plus nombreuse que les Indiens. Et c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans l'imaginaire de les gens. Et alors, c'est une région qui a beaucoup de possibilités, qui a développé un niveau d'éducation, de ressources humaines très importante. Et je crois qu'il y a un retard important dans l'intégration régionale. Maintenant, les problèmes avec les États-Unis Chaque fois qu'on parle d'Amérique latine, on parle des États-Unis, on est un peu jusqu'à là avec ça. Parce que les États-Unis, ça compte beaucoup. Il y a eu toute la théorie de la dépendance, de l'impérial. Et aussi, les Latino-Américains, pendant des années, ils ont un peu utilisé ça, pour l'Afrique. Mais nous sommes très bien, mais il y a quelqu'un qui nous laisse faire les choses comme on le ferait si on était seul. Hein? C'est pas ça. On veut avoir un bon rapport avec les États-Unis, on veut avoir aussi un panaméricanisme avec les États-Unis et avec le Canada, mais en même temps, il y a besoin d'une unité régionale et il y a la place pour les deux choses en même temps. Et il y a la place pour faire des accords. Parce que, oui, on doit travailler avec l'idée. Dans l'Amérique latine, ce sont des pays déjà très consolidés, mais qui parlent la même langue, qui ont une culture assez similaire, etc. On doit trouver quelques façons. Toujours l'Union européenne, c'était pour nous le regard. Notre regard, c'est vers l'Union européenne. Quand l'Union européenne a des problèmes, on souffre. Parce que c'est quelque chose qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt. comme on regarde avec beaucoup d'intérêt les types de développement des économies des pays nordiques. On doit, avec notre culture, avec notre histoire, avancer vers là. Mais on a déjà donné des pas très importants, on doit continuer.
Cheikh Tidiane Gadio.
Beaucoup d'Africains vous disent que le modèle de l'intégration économique est le meilleur modèle. Il faut éviter le discours idéologique, politique du panafricanisme. Et ils prennent comme référence, ou ils prenaient comme référence, il y a encore 2 ou 3 ans, l'Union européenne. Alors, les panafricanistes que nous sommes avons toujours dit que nous respectons l'Union européenne, nous reconnaissons les mérites de l'Union européenne, mais nous trouvons que l'Union européenne a à peu près le même problème, mais de façon plus sophistiquée, que les Africains. C'est-à-dire, vouloir bâtir une union essentiellement économique et refuser ce qu'on appelle le chapeau politique, le toit politique, c'est-à-dire une fédération des États membres de l'Union européenne, créerait immédiatement, le même jour, la première puissance du monde. C'est la seule entité au monde dont l'addition des PIB dépasse les États-Unis d'Amérique, la seule entité. Mais avec 30 000 fonctionnaires, avec une bureaucratie énorme, et avec une volonté de s'en tenir, d'éviter les questions, entre guillemets, qui fâchent, les questions politiques, l'Union européenne est arrivée, à notre avis, à une situation de surplace, difficulté d'avancer, d'affronter le futur, et on se retrouve avec des pays qui sortent, ce qui est une catastrophe, et une preuve que cette voie-là, je l'ai toujours dit, il y a 15 ans, à l'Union africaine, dans un discours, entre guillemets, mémorable, j'avais dit que nous respectons l'Union européenne, mais ce n'est pas notre modèle. Nous voulons les États-Unis d'Afrique. Nous voulons parler politique, de l'unité politique de l'Afrique. Et aujourd'hui, la preuve est faite que ce modèle-là, ce schéma, a des limites. Donc c'est pour ça que je vois un peu ce qu'il dit par rapport à l'Union européenne, d'immenses avancées. Ils ont réussi l'union monétaire dans certains aspects. En Afrique, nous avons le franc CFA. Rien que mettre les pays d'Afrique du franc CFA, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale et les Comores, dans une même entité, serait déjà une victoire. Mais il y a tellement de débats, de blocages en notre sein, et je comprends que la France n'est pas opposée à ce qu'on avance sur la question d'une monnaie commune africaine, qu'on mette le franc CFA, qu'on change même le nom au besoin, mais qu'on maintienne quand même les acquis et le mécanisme qui est en place. Si le Nigeria nous rejoint, si le Ghana nous rejoint, certains pays nous rejoignent, nous avons l'embryon d'une monnaie commune africaine. Ce que Kwame Nkrumah demandait en 1963, monnaie africaine, citoyenneté commune africaine, passeport, bien entendu, défense commune africaine, diplomatie commune africaine, commerce extérieur africain, tous les attributs du fédéralisme. Les États-Unis, je le dis tout le temps à mes amis africains, être ensemble dans une fédération ne veut pas dire aliéner la souveraineté de nos différents États. Donald Trump ne peut pas imposer au Mexique ou à l'État de Californie, etc., certaines choses qui ne relèvent pas des attributs de l'État fédéral. L'État fédéral se concentre sur la monnaie, sur la diplomatie, sur la défense, sécurité, etc., et commerce extérieur. Tout le reste, les États américains ont une souveraineté sur leur éducation, sur leur politique interne. Donc, qu'est-ce qui empêche les États africains d'accepter de se mettre ensemble? Qu'est-ce qui les empêche d'accepter de se mettre ensemble et d'avoir, si possible, à défaut d'avoir une grande entité fédérale, au moins avoir des fédérations dans les régions, pour, avec 300 millions de consommateurs dans la CEDEAO, avec toutes les ressources du Nigeria et de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de tous ces pays, on aurait d'emblée un pays presque équivalent à l'Inde ou à la Chine du point de vue du potentiel. Mais continuer à vouloir développer des États, des micro-États, où on a une université par pays, on a un grand hôpital par pays, l'agriculture n'a pas réglé la question de l'autosuffisance, etc. Toute la nourriture est importée. L'Afrique, de ce point de vue, n'a pas d'avenir. Son avenir, c'est de revenir à ses fondamentaux.
Combien d'espace vit Cheikh Tidiane Gadio pour parvenir à ce que vous évoquez là? Il faudra combien de temps?
Alors, l'Union africaine nous propose dramatiquement, et avec tout le respect que j'ai pour l'Union africaine, l'horizon 2063. Alors moi, 2063, ça me pose problème, parce que ceux qui ont rédigé un plan pour l'Afrique en 2063 doivent signer en bas du plan qu'ils prennent l'engagement d'être ici en 2063, à l'heure du bilan. L'Afrique est sous le coup de l'urgence. Moi, je préconise, ou nous préconisons, les panafricanistes, qu'on ait un plan 2020-2040. Et qu'on se fixe des objectifs très clairs et qu'on essaie de les atteindre. Le premier objectif, on ne peut pas être le continent qui a le plus de ressources hydriques quasiment au monde, avoir les meilleures terres au monde et avoir faim. C'est un scandale que d'avoir faim en Afrique. Et je sais qu'il y a des poches de famine et les gens ont faim. Donc, on commence par régler l'agriculture africaine. L'Afrique peut se nourrir et peut nourrir le monde. L'Afrique peut être même le grenier du monde. On règle les questions d'éducation, les questions de santé, d'infrastructure. Il y a tellement de choses à faire en Afrique. Ça pourrait même relancer l'économie mondiale et la croissance mondiale si on faisait ce qu'on doit faire et faire tomber les barrières politiques artificielles de ces soi-disant frontières africaines que les populations ne respectent pas au demeurant parce qu'elles traversent comme elles veulent, elles se sentent chez elles partout en Afrique. Nous, c'est cela que nous préconisons et nous pensons que c'est possible et les gens diront toujours « Oui, mais c'est un rêve, c'est un idéal, c'est pas possible ». C'est Nelson Mandela qui disait « C'est toujours impossible tant que ça n'a pas été fait ».
Ernesto Ottoné, en guise de conclusion.
Oui, je crois qu'il faut avoir une utopie. Et une utopie, ce n'est pas un rêve seulement. C'est une chose qu'on peut arriver à construire. Pour l'Amérique latine, je suis plus graduel dans mes démarches parce qu'on on est à un point où on doit construire des accords avec les pays déjà sur les infrastructures, sur l'économie, sur des différents... et trouver des accords politiques qui nous puissent nous conduire dans la diversité, je dis, parce que c'est une autre histoire, je dis pour l'Amérique latine, dans la diversité, dans l'existence d'une union latino-américaine qui puisse jouer un rôle à niveau mondial. Nous sommes une grande puissance agroalimentaire, déjà nous sommes une puissance agroalimentaire et ça peut se multiplier. Ça peut se multiplier, mais surtout on doit diversifier notre économie, on doit arriver à une situation où on ne dépend pas des matières premières, sinon on doit avoir des technologies plus importantes. Et ce chemin de l'union latino-américaine dans la diversité, je crois que c'est le chemin pour nous, pour les Latino-Américains.
Merci. Je vous donne rendez-vous avant 2063 pour poursuivre ce débat. Merci à chacun. Cheikh Tidiane Gadio, qui est donc président de l'Institut panafricain de stratégie, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, et Ernesto Ottoné, ancien conseiller du président chilien Ricardo Lagos, et directeur de la chaire Globalisation et démocratie de l'Université Diego Portales de Santiago du Chili, et de la chaire Destins mondiaux de l'Amérique latine du Collège d'études mondiales à Paris. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, Le Débat. Émission signée Marie-France Chatin, Marc Fichet, Zoé Pallier et Nathalie Laporte. À très bientôt.